Le 9 mai, c'est un concert, c'est du son contre la prison, à Ursa Minor, à Saint-Étienne.
Ce jour-là, le 9 mai, c'est un concert de rap, avec Tornade, Billy Breloc, Dialectic Music.
Le 9 mai, c'est pour l'intérieur, c'est pour tout le monde, c'est de 21h à minuit, en direct sur ta radio locale, sur plein d'autres en France, en Belgique.
Du son contre la prison, c'est un concert, mais pas que. C'est aussi l'occasion de ramener la question carcérale sur le devant de la scène.
De donner un avis de l'intérieur, un avis de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, de ce que nos proches vivent. Pas ceux des politicards, pas ceux des matons. Alors si vous vous reconnaissez, si vous avez envie qu'on parle de votre prison, de vos galères, de vos problèmes, faire un peu ressentir ce qui se passe dedans, ce qui se passe dans une cellule, ce qui se passe quand la porte elle se ferme, vos revendications, vos combats, vous avez la possibilité.
Ce sera retransmis sur plus de 20 radios. Alors pour que vos textes soient lus pendant la soirée, n'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse. L'Envolée, chez CSA La Gueule Noire,
16 rue du Mont,
42100 Saint-Étienne.
Rien que ça, écrire sur une feuille en papier. Rien que ça, pour pouvoir s'évader. Rien que ça, et toi dis-moi comment tu fais.
Du son contre la prison. C'est pour tout le monde, c'est pour parler, c'est pour qu'on sache, c'est pour que ce soit plus fermé, c'est pour que les secrets soient levés. Alors on se retrouve sur les ondes le vendredi 9 mai à 21h avec du bon son, du son contre la prison.
Salut.
Bonsoir. Salut. Vous êtes bien à l'écoute des Murs ont des oreilles, qui donc est diffusée tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 19h à 20h sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Donc on va rappeler rapidement les habituels traditionnels petits contacts. Donc pour nous écrire sur internet, c'est lesmurs@riseup.net, donc riseup.net. Et puis l'adresse postale, c'est Les Murs ont des oreilles à Radio Kaleidoscope, BP 422 38 018, Grenoble. Et pour les personnes qui voudraient réécouter cette émission ou les anciennes émissions, c'est Les Murs ont des oreilles, tout attaché, noblogs.org, donc noblogs.org. Voilà, donc ce soir, on va parler un peu du son contre la prison. On va donner quelques informations d'actualité carcérale, et puis surtout on se centrera sur un peu une actualité anti-répression, et puis de parler du coup de revenir sur les comparutions immédiates.
Voilà, alors moi je vais commencer par vous parler du son contre la prison. Ce que vous avez entendu là en début d'émission, ce n'est pas le jingle de d'habitude des murs, c'est le jingle qui annonce l'événement du 9 mai prochain. Du coup, concert à Ursa Minor Saint-Étienne de 21h à minuit, retransmis sur plus de 20 radios. Et là, je vais vous faire un peu la liste en fait des maisons d'arrêt qui seront couvertes par la rediffusion du concert. Sachant qu'il sera possible d'envoyer des SMS durant la soirée au numéro suivant, le 07 89 28 85 66. Ces SMS, en fait, ils seront lus dans la mesure du possible entre les groupes qui joueront ce soir-là.
Ça vaut le coup peut-être redonner le numéro si les gens n'ont pas eu le temps de noter.
Ouais, alors le numéro, c'est le 07 89 28 85 66. Alors, du son contre la prison sera rediffusé aux maisons d'arrêt de Digne, Gap et Aix-Luynes.
Et ce sera avec la radio Zinzine.
À Alençon, pour la prison de Condé-sur-Sarthe.
Sur Radio Pulse.
La maison d'arrêt d'Arras.
Sur Radio PFM.
À Bruxelles, les prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael.
Sur Radio Panique et Radio Air Libre.
À Clermont-Ferrand sur Radio Campus.
Pour la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand et le centre de détention de Rion.
La Emma de Compiègne.
Sur Radio Graphite.
À Grenoble, bien sûr, pour les prisons de Vars et le centre de semi-liberté de Saint-Bruno pour Radio Kaleidoscope.
À Dijon, c'est la maison d'arrêt de Dijon.
Sur Radio Campus. À Lille, les maisons d'arrêt de Sequedin et de Douai et le centre pénitentiaire d'Annelin.
C'est sur Radio Campus.
À Marseille, sur Radio Galère.
Ce sera pour la maison d'arrêt des Baumettes, de Tarascon, de Luynes, la centrale d'Arles et l'EPM de la Valentine.
Le centre de semi-liberté de Montpellier avec Radio FM+.
La maison d'arrêt de Nîmes avec Radio Alliance.
La maison d'arrêt de Rouen Bonne Nouvelle.
Sur Radio HDR.
La maison d'arrêt de la Talaudière à Saint-Étienne.
Sur Radio Dio.
À Saint-Polyte-du-Fort, le HP de Carréron.
Radio Escapade.
À Toulouse, sur Canal Sud.
C'est pour le centre de détention du Muret, la maison d'arrêt de Cesse et de Montauban. Et le CRA de...
Cornebarieux.
Voilà.
À Valence, pour la maison d'arrêt de Valence, sur Radio Méga.
Et à Lyon, sur Radio Canu, ce sera donc les tôles de Villefranche et de Corba, le CRA de Saint-Exupéry et le PM de Mézieux.
Voilà pour la liste un peu fastidieuse. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 07 89 28 85 66.
Est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose sur du son contre la prison ?
C'est bon.
Ok, donc on peut peut-être juste rappeler une fois encore les dates pour être sûr que
alors, ça
sera bien
intégré. Le vendredi 9 mai à de 21h à minuit, rediffusion en direct sur cette antenne, Radio Kaléidoscope 97 FM et sur plein d'autres qu'on vient d'énumérer.
Voilà, et du coup, n'hésitez pas à faire passer des messages si vous avez envie que ce soit diffusé en direct ce soir-là et entendu du coup dans toutes les prisons qu'on a citées.
Oui, et puis de faire tourner le mot au maximum du coup pour que le maximum de personnes, et notamment à l'intérieur, soient au courant et puissent écouter. On va passer à toute autre chose, même si on reste dans le carcéral, sur un petit point, genre la prison, c'est prendre soin de vous à peu près, c'est un peu l'idée. Donc en fait, c'est un prisonnier... Il y a eu un prisonnier qui n'a pas été transféré immédiatement à l'hôpital suite à un traumatisme crânien parce que la sécurité prime toujours sur le reste. Donc le 2 février vers 13h, un taulard se fait tabasser par quatre autres prisonniers en cours de promenade à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Donc c'est dans le sud. Cette personne se retrouve dans un état critique après avoir perdu connaissance. Il souffre finalement d'un traumatisme crânien et thoracique ainsi que d'un hématome oculaire volumineux. Donc ça, c'est ce qui a été après, dans le rapport d'un des médecins, ce qui a été relevé une fois à l'hôpital. Mais sauf que arriver à l'hôpital n'a pas été chose facile. Donc déjà, c'est seulement à l'arrivée de l'infirmière pour son tour de garde à 14h30 que le médecin est informé de la situation. Et il demande alors son admission immédiate aux urgences. Arrivés sur place, les pompiers repartiront sans le blessé parce que leur camion ne peut embarquer tout le monde. En l'occurrence, les quatre pompiers, le détenu et les trois surveillants chargés de l'escorte qui, du coup, dépassent la charge autorisée par le camion des pompiers. Donc l'administration pénitentiaire refuse de réduire l'escorte de 3 à 2 agents, ce qui permettrait dans ce cas-là que le prisonnier puisse partir à l'hôpital. Et sous prétexte que c'est au regard des éléments de personnalité et judiciaire du détenu. Alors même que du coup, à ce moment-là, le médecin confirme son état critique et la nécessité impérative de sa prise en charge par les urgences. Sachant qu'il explique aussi qu'à ce moment-là, c'est dans cette période-là de perte de connaissance tout de suite après un choc traumatique que les risques de mort et de complications sont les plus grands. Donc il essaye d'expliquer ça, mais ça ne donne pas un argument suffisant pour trouver une solution. Donc du coup, les pompiers repartent, les constantes vitales de la personne continuent à se dégrader, ce qui fait que le médecin sollicite de nouveau les urgences. L'ambulance revient donc à 17h30, donc il faut se rappeler qu'il s'est fait tabasser vers 13h quand même. Et cette fois, les pompiers acceptent qu'il y ait bien 4 personnes à bord, donc le blessé et 3 surveillants. Donc ils mettent de côté, ils ont la gentillesse de mettre de côté leurs charges, enfin voilà, les obligations de charge maximum et tout ça pour pouvoir amener le prisonnier à l'hôpital. Et donc, il aura fallu 4 heures au prisonnier avant d'arriver à l'hôpital, sachant que le scanner cérébral réalisé à son arrivée montre une fracture à la base du crâne avec incarcération des muscles oculaires. Et donc, il est directement envoyé au bloc opératoire. Cependant, il quittera l'hôpital à 23h le soir même après l'opération, puisqu'il manque de lit à l'hôpital. Donc, il n'y a pas que la prison qui sait prendre soin de ses prisonniers, il y a aussi l'hôpital qui sait prendre soin de ses patients. Et autre histoire qui, pour le coup, c'est un peu bien moins fini. Donc Denis Aydin, 21 ans, est en état de coma végétatif depuis bientôt 3 mois après son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc pour revenir sur l'histoire, Denis, en rentrant du travail, se fait interpeller en Seine-et-Marne devant un café par 3 policiers en civil. Il est amené au commissariat. Le lendemain, son frère se présente à ce même commissariat pour obtenir des informations sur l'interpellation de Denis. On ne lui donne aucune réponse et on l'envoie au commissariat de Melun, qui lui-même l'envoie au palais de justice de cette même ville. Là, on lui apprend que Denis a été transféré à la prison de Fleury-Mérogis. Donc dès le lundi, donc on est à ce moment-là le 27 janvier, le frère se rend à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour avoir des explications sur l'incarcération de Denis. Évidemment, on ne lui dit rien et il est simplement invité à faire une demande de visite. Et malgré plusieurs démarches, le frère n'obtient ni information ni autorisation de voir Denis. Et donc le mercredi matin, deux jours plus tard, la direction de la maison d'arrêt appelle le père et lui apprend que son fils a fait une tentative de suicide et qu'il doit se rendre donc à l'hôpital. Pour X ou Y raison, le frère lui se rend à la prison. Là, on lui explique que Denis a fait une tentative de suicide, mais que sa vie n'est pas en danger et qu'il se trouve toujours au sein des locaux de la prison. On demande alors à la famille de repasser à 17h30 pour avoir plus d'informations auprès de la direction de la prison. Donc à ce moment-là, au cours de cet entretien avec la direction, on explique à la famille que Denis aurait fait une tentative de suicide donc dans la nuit du mardi au mercredi à 2h45. Donc les matons ont été alertés par le co-détenu de ce qui se passait. Et donc la famille a été contactée seulement 10 heures après les faits. Et c'est au moment de cet entretien que finalement ils apprennent également que Denis n'est absolument pas, ne va pas bien et n'est pas actuellement en prison, mais bien en soins intensifs à l'hôpital d'Antony depuis en fait immédiatement après la tentative de suicide et qu'il est en état de mort cérébrale. Donc ça c'était donc le 29 janvier. Aux dernières nouvelles assez récentes. Du coup, Denis Aydin est toujours dans le même état à l'hôpital et les parents, enfin la famille de Denis n'a eu aucune information ou explication sur le déroulé, c'est-à-dire de pourquoi on ne leur a pas donné bonnes informations, pourquoi on les a amenés à l'hôpital, finalement on les a amenés en prison, on leur a dit que le fils était encore là alors que finalement en fait il était déjà en mort cérébrale à l'hôpital. Enfin voilà, ce qui est assez récurrent dans ce genre d'affaires et qui n'aide pas non plus les familles en fait d'être face à une espèce de mur de silence. Où personne assume les responsabilités sur les foirades X ou Y. Et puis, c'est toujours dramatique, un mort en prison, d'autant plus quand la personne vient juste d'arriver. Et du coup, voilà, enfin, pour la famille, pour tout le monde, c'est dramatique. Et pour finir, du coup, je propose de mettre un morceau d'un groupe qui s'appelle, ou d'un rappeur, je ne sais pas précisément, qui s'appelle ROC. Le morceau s'appelle « Bienvenue chez les fous » et le morceau, de ce que j'ai compris, est en l'hommage de Denis Aydin et donc demande justice pour lui.
Y'a même pas de lézard, on assume ce qu'on subit, toujours prêt pour sortir les armes. Big up ratard qui se passe, on s'occupe tous les petits du Tchekar. Quand j'arrive, c'est rat, c'est parti, poteau, mais tout le monde rabat. Fais épais, fais ce qu'il faut, arrête tes paroles, fais des gestes. Dans la vie, y'a tout pour tous, et si t'as pas de bol, prends les restes. Tu te demandes c'est qui le mec, c'est pas normal qui tue le mic. Vise le but, tu pas de ses putes qui sucent des bites au kilomètre. Baisse le proc, tout le monde t'encule, c'est Baltimore, lever les culs. Baisse le proc, je fais pas d'études, c'est pour les potos qui titulent. Ami Kerim, ça dit wax, ça dit rien posé dans le secteur. Vas-y, fais péter les watts, mon wad est pour les inspecteurs. C'est pour les frères, pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on ne voudrait pas perdre. J'suis trop vénère, j'suis trop déter, j'demande la justice pour l'Isère. C'est pour ceux qui paient les coups, qui se lèvent aux stars, qui font des bouts. VSD, pas des coups, quand ça va mal, on charge le pont. De le couler sous les bouts, quand j'ai plongé les fuites des coups. Des coups de feu pour les décons, bienvenue, venu chez les fous. ROC dépend de vous, départ, des partages, plus des vues. Préparez ces bombardages, veux voir le public sur le cul. J'suis venu pour tonifier, pour faire les choses d'une paire de coups. Si j'y fais des terres avec une putain paire de coups. Plus t'es gore et plus t'es fort et plus tes potos sont jaloux. Plus t'avances et plus tu tombes. Et plus tu cours comme Pierre et coup. C'est pas la fête en bas des tours. Non, non, détrompez, trompez-vous. Trouvez-vous que nos mères sont heureux. Je vous invite au rendez-vous. Bande de bâtards, rendez-vous. Compte que les petits se fient à nous. Ça fume du shit, ça casse les flics. Et puis ça met les filles à genoux. Pas dit, pas dit, pas dit tout. J'ai pas dit, pas dit, pas d'idée. Je vous l'instère et fous le bordel. Et sur un beat de qualité. ROC là qui est pété. Qui a débarqué pour tout péter. Charbonné pour faire des thunes. Éviter de craquer tout l'été.
baisse des MC par semaine, égare à celui qui s'en mêle. Tu me vois seul, tu prends des ailes et c'est là que mon équipe s'armène.
Baisse des MC par semaine, égare à celui qui s'en mêle. Tu me vois seul, tu prends des ailes et c'est là que mon équipe s'armène.
C'est pour les frères, pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on ne voudrait pas perdre. J'suis trop vénère, j'suis trop déter, j'demande la justice pour l'Isère. C'est pour ceux qui paient les coups, qui se lèvent aux stars, qui font des boucles. VSD pas des coups, quand ça va mal, on charge le pont. De le couler sous les bouts, quand j'ai plongé les fuites des coups. Des coups de feu pour les décons, bienvenue, venu chez les fous. R.O.C. dépend de vous, départ, partage plus des vues. Préparez ces bombardages, vous voir le public sur le cul.
C'est pour les frères, pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on ne voudrait pas perdre. J'suis trop vénère, j'suis trop déter, j'demande la justice pour l'Isère. C'est pour ceux qui paient les comptes, qui se lèvent aux stars, qui font des pompes. VSD pas des cons, quand ça va mal, on charge le pont.
De le couler sous les bouts, quand j'ai plongé les fuites des coups. Des coups de feu pour les décons, bienvenue, venu chez les fous. R.O.C. dépend de vous, départ, partage plus des vues. Préparez ces bombardages, vous voir le public sur le cul.
Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope et c'est l'émission Les Murs en des Oreilles. Moi, je vais revenir en fait sur la répression à Nantes suite à la manif du 22 février 2014 contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, pour rappel, en fait, l'occupation de résistance contre le projet d'aéroport sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est 30 ans de résistance. Une multiplication des occupations et intensification de la lutte ces 10 dernières années, avec notamment l'épisode de l'automne 2012 où une tentative de la police d'expulsion de la ZAD et une occupation militaire qui a été mise en échec par la détermination des militants de la ZAD et d'ailleurs. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez aller sur le site zad.nadir.org, zad.nadir.org. Du coup, la manif du 22 février, c'était une très grosse manif, la plus grosse sur ce mouvement. Il y a eu 50 000 personnes à la manifestation. Le centre-ville a été transformé en zone rouge par la police, sur ordre de la préfecture, avec des grilles anti-émeutes un peu partout et des CRS surarmés. Ce jour-là, la police a blessé plus de 200 personnes, dont au moins deux ont perdu l'usage d'un œil suite à des tirs de flashball. Les 1800 policiers qui ont été mobilisés ont généreusement distribué grenades de désencerclement, grenades lacrymogènes, coups de flashball, canons en haut, etc. Un compte-rendu détaillé de la manif est trouvable sur Indie Media Nantes. Suite à cette manif, il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte contre les keufs pour violence volontaire avec armes. Il y a un blog qui a été créé qui s'appelle « Appel aux blessés du 22 février 2014 ». Avec un texte signé de Pierre qui a été blessé à l'œil par un tir de lanceur de balles de défense le 27 novembre 2007 à Nantes, la même ville. Il parle en fait, il revient sur les armes utilisées par la police contre les manifestants, comment elles sont utilisées, dans quel but, et de l'armement des anti-émeutes en fait qui s'intensifie au fil des années. Que ce soit en nombre d'armes ou de leur dangerosité, avec des trucs de plus en plus qui ressemblent à des armes militaires. Il réaffirme que nos blessures ne sont pas des bavures et il appelle tous les blessés de cette manif à se rencontrer pour faire front. Vous pourrez trouver ce blog, c'est 22 février 2014 nantes.blogspot.fr. Février sans accent. Du coup, après la répression policière de la manif, vient la répression judiciaire. Le lendemain des élections, le lundi 31 mars, la police perquise et arrête 9 personnes. 2 personnes sont relâchées sans suite. 3 personnes, dont 2 mineurs, auront leur procès plus tard. Et 4 personnes passent en comparution immédiate le lendemain de l'arrestation, avec des peines très lourdes qui tombent. 4 mois de sursis, 4 et 5 mois ferme sans mandat de dépôt et 1 an ferme avec mandat de dépôt. Pour cette dernière sentence, le juge va jusqu'à doubler la peine demandée par le procureur. Il s'agit bien de faire un exemple de réprimer le mouvement. Vous pouvez aussi trouver un compte-rendu de ce procès avec plus de détails sur Indie Media Nantes. Suite à ça, en fait, il y a eu plusieurs communiqués qui ont affirmé appeler au soutien et à la solidarité avec les inculpés. Dont un qui s'appelle « Avec les inculpés du 22 février, avec le mouvement » et qui est signé par des occupantes de la ZAD, groupe et personnes en lutte contre l'aéroport et son monde, l'Assemblée des habitants de la ZAD du jeudi 10 avril 2014 et le CARILA, qui est le comité anti-répression issu de la lutte anti-aéroport. Dans ce texte, on peut trouver une analyse du pourquoi et du comment a été réprimée cette manif, le déferlement médiatique qu'a eu ensuite sur une ville saccagée par les Black Blocs, qui vise clairement à diviser le mouvement, et sur la répression judiciaire qui s'ensuit et qui vient à un peu asseoir et légitimer le tout, quoi, avec une stratégie commune qui est une tentative de criminaliser la lutte sociale. Cet appel, il termine par ce petit passage que je vais vous lire. C'est maintenant à toutes celles et ceux qui, le 22 février, n'ont pas supporté de se faire entraver dans leur droit de manifester, qui se sont insurgés contre la violence policière et la répression, et au-delà, à toutes celles et ceux qui se soucient de la possibilité même de lutter, de s'organiser pour ne laisser aucune des personnes inculpées après cette journée, seule face à la justice ou derrière les barreaux. Il y a un comité de soutien qui a été, créé pour Enguerrand, qui la personne qui a été condamnée à un an ferme. Le contact, c'est soutien.enguerrand@riseup.net. Enguerrand, ça s'écrit ENGUE2RAND. Le CARILA, le comité anti-répression, apporte un soutien juridique et matériel aux inculpés. Donc si vous voulez envoyer des dons pour les frais de justice, les frais d'avocat, c'est possible à cette adresse. Comité de soutien aux inculpés, Le Guet 44 220, Couëron. Voilà, et puis pour plus d'infos là-dessus, vous pouvez aller sur Indymedia Nantes ou le site dont j'ai parlé, zad.nadir.org. Voilà, c'est tout pour Nantes.
C'est tout pour Nantes, mais on va continuer à parler de répression de mouvement social, cette fois à Marseille. Puisque du coup, moi, j'avais envie de revenir un peu sur ce qui s'est passé le 16 mars. Donc le 16 mars, c'était le traditionnel, mais réinventé, carnaval de Noailles et de la Plaine. Donc c'est un carnaval qui a lieu tous les ans depuis une quinzaine d'années donc à Noailles et à La Plaine, qui sont deux quartiers populaires du centre-ville de Marseille. Du coup, il faut savoir qu'à Marseille, il y a quand même une problématique assez particulière sur cette question de quartiers populaires et de ce qu'on appelle de boboisation ou de gentrification. C'est-à-dire que Marseille, c'est, je crois, la seule grande ville d'Europe où le centre-ville est resté populaire et n'a pas été encore complètement aseptisé. Et du coup, il y a évidemment des fortes volontés d'aseptiser le centre-ville à grands coups de rénovation urbaine, de tramway, de caméras de vidéosurveillance, enfin voilà, plein de choses qu'on connaît bien à Grenoble, mais qui à Marseille sont en cours, mais n'ont pas encore été vraiment gagnées, quoi. Et du coup, voilà, il y a aussi plein de résistance à cette logique-là, et notamment donc, dans ces quartiers de Noailles et de la Plaine, où bah, voilà, ça reste des quartiers populaires, avec plein de populations, comme on dit, issues de l'immigration, en tout cas plein de communautés différentes, une vie de quartier assez riche, un marché, enfin voilà, du coup, une vraie vie populaire dans un vrai centre-ville, comme on voudrait qu'ils soient tous. Et donc, tous les ans, il y a donc ce carnaval qui fait le tour de ces deux quartiers. Et il faut savoir que si, du coup, dans ces quartiers-là, à Noailles, c'est là qu'a évidemment été construit le tout nouveau commissariat de Noailles, donc l'énorme truc commissariat central qui est bien là pour foutre la pression aux gens, pour bien leur faire comprendre qu'en fait, ils ne sont pas les bienvenus chez eux, quoi. Et donc, le 16 mars, il y avait ce carnaval, et donc ça s'est bien passé, c'était bon enfant. Voilà, il y avait de la musique, des gens déguisés qui se balançaient de la farine dessus, enfin, voilà, en mode un carnaval populaire, quoi. Et à la fin du carnaval, il y a toujours le traditionnel procès du Caramantran. Donc le Caramantran, c'est comme le roi carnaval, quoi, qui tous les ans est un symbole de quelque chose que les Marseillais rejettent. Cette année, c'était donc la mise en place d'hôtels 5 étoiles et de choses comme ça, d'hôtels de luxe à Marseille. Et du coup, donc à la fin du procès, le roi carnaval, le Caramantran, est brûlé. Sur du coup la plaine, qui est un espèce de grand parking vide, du coup il n'y a aucun problème de sécurité puisqu'il n'y a rien autour, quoi. Et voilà, et du coup ça se passe tous les ans sans problème, et là cette année ils ont décidé d'intervenir avant la fin de l'incendie du Caramantran. Du coup, à un moment, les flics et les pompiers se sont dit, en fait là on va pas attendre que ça finisse de brûler calmement, on va éteindre le feu, alors qu'il y avait encore plein de gens autour, des enfants, des personnes âgées, enfin voilà, plein de gens. Et du coup, donc ils sont intervenus, les gens ne les ont pas laissés faire, ils étaient en mode, en fait, vous n'allez pas maintenant éteindre l'incendie, le feu, quoi. Alors que voilà, juste vous attendez une demi-heure, ce sera fini, tout le monde rentrera chez soi et ce sera bien, quoi. Du coup, il y a eu de la résistance, Les flics se sont emballés, du coup ça a été matraquage, charge de gens en les poussant contre le feu, balançage de grenades lacrymogènes, enfin voilà. Donc il y a eu en tout, pendant le cortège, une personne interpellée, deux personnes qui se sont fait arrêter à ce moment-là, du coup au moment de tension avec les flics qui voulaient éteindre le feu, qui allait de toute façon s'éteindre au bout d'une demi-heure. Après il y avait quand même des scènes assez drôles où voilà, les pompiers arrivent pour éteindre le feu et en fait ils se rendent compte que leur lance est percée et du coup il y a de l'eau qui sort de partout, du coup les flics se font tremper, enfin voilà, c'était quand même un peu drôle même s'il y a eu des gens interpellés. Et ensuite du coup, en réaction à ça, à cette répression d'un truc populaire complètement injustifié et absurde, les gens ont décidé de partir du coup, de faire bouger le carnaval vers le commissariat de Noailles. Du coup, là, il y a eu encore un face-à-face avec les flics, le quartier a été bloqué pendant 2 heures, donc c'est quand même une intersection assez importante de la ville de Marseille. Et où là, il y a eu encore 3 personnes qui sont faites interpeller. Du coup, au final, ce carnaval populaire, il y a eu 8 personnes interpellées, dont 7 qui sont passées en comparution immédiate, donc quelques jours après, et une qui passe en procès, donc mardi 15 avril, donc c'est la veille du jour où cette émission va être diffusée. Et du coup, les résultats des comparutions immédiates, c'est... ça fait assez peur et c'est pour ça qu'on avait aussi envie d'en parler. Donc, sur les 7 personnes, voilà, c'est ça qui sont passées en comparution immédiate. Donc, il y a eu des peines très très lourdes. Donc, les moins lourdes, c'était 6 mois de sursis. Alors, les personnes qui passaient en comparution immédiate, c'était soit pour outrage, soit pour, par exemple, il y avait une personne qui sortait du Carrefour Market d'en face du commissariat, qui avait acheté une canette de coca et qui s'est fait accuser d'avoir balancé sa bouteille de coca sur les flics. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des trucs ridicules.
C'est les accusations assez récurrentes, les outrages, les jets, machin, divers et variés. C'est tout, quand ils n'ont rien d'autre à mettre, ils mettent ça sur la gueule des gens. C'est...
Voilà. Et du coup, voilà, avoir acheté une canette de coca dans le Carrefour Market d'en face du commissariat de Noailles, donc il y a, voilà, y a donc des peines qui sont tombées de 6 mois de sursis à 2 mois ferme, et les 2 mois ferme étant accompagnés en plus de 8 mois de sursis. Et donc il y a 4 personnes qui, à la suite des comparutions immédiates, ont été emmenées directement au Baumettre, puisqu'il y avait mandat de dépôt. Là encore, les peines prononcées ont été plus lourdes que ce qui était réclamé par le procureur, puisqu'il faut savoir que la juge donc, qui était en fonction à ce moment-là, c'est une juge... qui est réputé pour envoyer les gens en prison, quoi. Et voilà, du coup, on avait envie de parler de ça, d'exprimer notre solidarité avec les personnes qui sont emprisonnées. Aussi, je voulais vous faire, pour comprendre un peu le contexte de Marseille, le carnaval, tout ça, on a fait un petit montage qui explique un peu l'historique de ce carnaval et le lien avec les luttes un peu localement sur Marseille. Du coup, je vous propose de l'écouter et puis on va continuer d'en parler après.
À Marseille, la tradition s'était perdue. La ville, au milieu des années 90, avait instauré un pseudo-carnaval, un défilé des enfants des écoles costumés sous l'œil attendri des parents massés sur les trottoirs. Quelques minutes après le passage du défilé, les services municipaux procédaient déjà au nettoyage des confettis. Le mot d'ordre de ce pseudo-carnaval semblait être « surtout, pas le moindre excès ». À tel point que les autorités l'ont ensuite transféré au Prado, autrement dit à Dash, parce que cette innocente promenade déplaisait aux commerçants d'Anville qui lui imputaient une baisse de la clientèle cet après-midi-là.
L'idée que le carnaval soit spécialement destiné aux enfants en dit long sur la tristesse d'une époque et d'un pays. Les adultes, désormais formatés, laissent à leur progéniture la liberté du carnaval, liberté au demeurant bien bridée. À la plaine même, il n'est pas rare d'entendre des gens qui, par ailleurs, cela joue cool, dire « à moi, j'ai horreur de me déguiser. À moi, je ne supporte pas qu'on me jette de la farine dessus. Moi, moi, moi. » Alors que ce carnaval, c'est justement la dissolution momentanée du moi, grâce au masque qui nous projette dans une salutaire indistinction.
Ben, au début, ce n'était que le carnaval de la plaine, mais comme la deuxième année, une grosse équipe de Noailles était montée participer, il fut décidé ensuite d'un commun accord que le carnaval passerait aussi par chez eux et nous n'avons pas eu à le regretter. Pendant des années, à chaque fois qu'on arrivait à Homer, ça doublait l'intensité.
Il ne fut pas facile de mettre en place le procès. Il fallut attendre la troisième année pour que cela fonctionne. Cette année-là, le réaménagement de la plaine par la mairie du 4-5e, dans une perspective tristement sécuritaire, avec ces grilles qui viennent clôturer un espace qui a toujours été ouvert depuis qu'il existe, provoqua une telle indignation que le procès put avoir lieu, avec une intense participation de la foule. Le carin entrant était un énorme cochon rose, sanglé d'une écharpe tricolore et muni d'un badge, maire du 4e-5e. Une personne travaillant dans cette mairie nous confia plus tard que Bruno Gilles avait été très affecté de se savoir représenté sous des traits porcins, jugé, puis brûlé sous les imprécations publiques.
À partir de là, les procès ne cessèrent d'accabler les malfaisants de tout poil. En 2004, le carin entrant, qui représentait un Sarkozy grimaçant et en uniforme de la police, fut embarqué par deux patrouilles de CRS alors qu'il attendait tranquillement l'arrivée des carnavaliers. Libéré par les inspecteurs de permanence de l'évêché qui avaient dû sentir le ridicule de la situation, il fut finalement condamné au bûcher après un procès animé. Ce fut sans doute l'année où les carnavaliers participèrent le plus au procès par leurs témoignages. Furent par la suite incendiés Euroméditerranée, le capital représenté sous forme d'un crapaud habillé de billets de banque, Gabi le Gabian, logo du futur tramway, juché sur un eurodateur, l'incinérateur de Fos-sur-Mer, une véritable petite usine avec des cheminées crachant parfois de la fumée. L'identité nationale sous forme d'un coq tricolore, la vidéosurveillance sous forme d'un œil cyclopéen, etc.
Par ailleurs, selon le rapport d'études de l'International Anthropology Social Studies League, la dimension protestataire de ce carnaval de la plaine Noailles est fortement enracinée. La dernière édition a par exemple dénoncé la mise en place d'un système de vidéosurveillance dans les quartiers du centre de Marseille. Un document interne à la Direction Générale du Renseignement Intérieur, que nous avons été autorisés à consulter, affirme ainsi. L'hostilité au principe même de la vidéosurveillance semble partagée au sein de la faune interlope qui fréquente les débits de boissons et les locaux associatifs de la plaine. Le défilé carnavalesque de cette année 2012 s'est en effet accompagné de déprédations symboliques à l'encontre de plusieurs caméras sous les applaudissements du public. Quelques mois après, un charivari manifestement inspiré de ce carnaval a entraîné la destruction de plusieurs caméras dans le quartier voisin de Noailles. S'il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de ces violences, qui agissaient sous le couvert de masques carnavalesques, il est loisible de penser qu'un fil conducteur relie les deux manifestations. Aussi, la possibilité d'une interdiction de ce carnaval se pose-t-elle ? Le fait que cet événement n'ait jamais fait l'objet, de la part d'organisateurs eux-mêmes non identifiés, d'aucune déclaration préalable, ni en préfecture, ni auprès des services municipaux, pourrait être effectivement invoqué à l'appui d'une telle mesure. Toutefois, il est à préciser que celle-ci pourrait très certainement s'avérer contre-productive par la nature des réactions qu'elle serait à même d'entraîner dans ces deux quartiers où le maintien de l'ordre républicain s'avère déjà difficile en temps normal. Les témoignages que nous avons recueillis lors de notre enquête semblent confirmer les conclusions de ce compte-rendu policier. De plus, Marseille se trouve en cette année 2013 à assumer le titre de capitale européenne de la culture. Il s'agit de dispositifs européens, en ce cas gérés depuis Paris, avec des financements publics et privés visant à libérer les centres-villes de populations non productives pour y attirer des créatifs, capables d'accélérer les nécessaires processus de rénovation urbaine tel que cela se fait couramment dans notre pays à Boston, New York, San Francisco et New Orleans, cette dernière ayant eu la chance de bénéficier de procédures accélérées grâce à l'ouragan. Il semble que cet événement culturel de prestige ne fasse pas toujours l'unanimité au sein d'une population locale de faible niveau culturel, allez vous faire foutre, et au pouvoir d'achat réduit, facilement séduite par des postures extrêmes. Certains de nos informateurs nous ont ainsi laissé entendre que la carnaval, qui doit cette année se dérouler le 17 mars, pourrait s'en prendre avec une certaine virulence au dispositif Marseille Provence 2013.
Voilà, du coup, c'était un peu l'historique de ce carnaval de Noailles et de la Plaine à Marseille. Donc, on rappelle, il y a eu 8 personnes arrêtées le 16 mars dernier pendant le carnaval, dont du coup, une qui passait en procès hier et 7 qui sont passées en comparution immédiate et du coup, dont 6 qui sont actuellement incarcérés, 4 pardon, qui sont incarcérés au Baumettes. Du coup, voilà, on leur exprime toute notre solidarité. Il faut savoir aussi donc qu'autour de cette histoire-là, il y a évidemment des comités de soutien qui se sont créés, des actions en solidarité et tout ça. Et du coup, je vais vous donner un peu des coordonnées. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé pendant ce carnaval et sur la répression et sur où en sont du coup les personnes concernées, donc vous pouvez soit aller voir sur le site 1000babord.org, donc 1000 M-I-2-L-E, babord, tout attaché, B-A-B-O-R-D-S.org. Sinon, il y a une adresse mail, donc qui est carnavaltouslesjours, @riseup.net, riseup, R-I-S-E-U-P. Donc ça, c'est pour un peu les infos de ce qui se passe sur Marseille. Il faut savoir qu'il y a aussi donc, une caisse de solidarité qui s'est montée pour récolter de la thune, ben, du coup, pour payer les avocats, pour envoyer des mandats, enfin voilà, pour faire tout ce qu'il y a à faire quand il y a des proches qui sont en prison. Donc il y a des soirées de soutien qui sont organisées, donc il y en a eu à Marseille, il y en a eu à Grenoble, il y en a un peu partout, donc voilà, si vous en entendez parler, n'hésitez pas à venir et puis à donner un peu de sous pour ces personnes. Aussi donc pareil, si vous voulez plus d'infos, donc il y a deux émissions qui ont été faites sur Radio Galère, donc qui est une radio locale indépendante marseillaise, donc c'était l'émission Libre Débat. Vous pouvez retrouver assez facilement sur internet, vous tapez Radio Galère, Libre Débat, Carnaval de la Plaine, et voilà, vous allez tomber sur ces deux émissions de 1h30, donc qui reviennent en détail sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est que le carnaval, qu'est-ce que c'est le contexte marseillais, et tout ça. Et il y a aussi des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, où du coup on voit bien les images du carnaval et les images de la répression, et du coup des témoignages de gens qui racontent comment ça s'est passé, la charge des CRS, et tout ça. Voilà, je ne vais pas en dire plus, il y aurait encore plein d'autres choses à dire sur Marseille et tout, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et du coup on va passer à autre chose.
Alors du coup, en fait, là on a beaucoup parlé de répression par rapport à Nantes, par rapport à Marseille, et en fait ça nous a donné envie de revenir sur la comparution immédiate, parce qu'en fait toutes ces personnes, en fait, elles ont été condamnées via la procédure de la comparution immédiate. Du coup, on se disait que ça valait le coup de faire un petit topo là-dessus. La comparution immédiate, en fait, c'est une manière pour la justice de désengorger les tribunaux et de faire de la condamnation en mode express. C'est en général, les condamnations en comparution immédiate, elles sont quasiment toujours plus lourdes qu'en procédure correctionnelle normale. Aussi parce qu'en fait, les gens, en fait, passent au tribunal directement en sortant la garde à vue, et du coup ça fait qu'il n'y a pas le temps de préparer la défense, et que souvent en fait le dossier est uniquement à charge. Du coup, pour ce qui est concrètement, je vais vous parler en fait de... Alors attendez. Oui, du coup, en fait, la comparution immédiate, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça a été institué par une loi de 83, les articles 393 à 397.7 du Code de procédure pénale. La comparution immédiate est possible s'il y a la réunion des trois conditions suivantes. Les preuves réunies doivent paraître au parquet suffisantes pour que le prévenu soit déféré au tribunal. La peine d'emprisonnement encourue doit être au moins égale à 2 ans et, en cas de délit flagrant, supérieur à 6 mois. Il faut enfin qu'il ne s'agisse pas d'un mineur, ni d'un délit de presse, ni d'un délit politique, ni d'une infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Ce qui concerne les mineurs, ça a changé depuis le 5 mars 2007. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent faire l'objet d'une procédure spécifique de présentation immédiate devant le juge des enfants. Seuls peuvent être poursuivis selon ce mode les jeunes déjà connus de la juridiction pour mineurs. Ils sont alors jugés par le tribunal pour enfants dans un délai de 10 jours à 1 mois, sauf renonciation expresse du mineur en accord avec son avocat et ses parents. Voilà, du coup, en fait, si ces trois conditions sont réunies, le prévenu comparaît sur le champ devant le tribunal. Et au maximum, après 3 jours de détention, lorsque le tribunal ne peut pas se réunir le jour même, sinon il sera remis en liberté d'office. Alors, il faut savoir que la comparution immédiate, c'est possible de la refuser. Elle n'est possible que si l'inculpé l'accepte. Du coup, en fait, pour ce petit topo, je me suis basée notamment sur un bouquin qui s'appelle « Face à la police, face à la justice » et qui rassemble tout un tas d'infos très intéressantes sur connaître ses droits pour se défendre face à la police et face à la justice. Du coup, notamment, je vais décrire un petit peu les étapes de la comparution immédiate. En fait, avant la comparution, le prévenu est censé être présenté à un travailleur social qui va faire un profil social et psychologique du prévenu. Du coup, pour ça, il va enquêter sur tout un tas de trucs sur sa vie. Il faut savoir en fait que tout ce qu'on dit à cette personne, ça peut être retenu contre nous et que en fait, ces travailleurs, ils bossent pour le compte des flics et de la justice. En général, c'est possible de voir l'avocat quelques minutes avant le début du procès. C'est souvent en fait très compliqué de préparer la défense à ce moment-là parce qu'en fait on sort de garde à vue, que en fait on a peu d'éléments et tout ça. Du coup, en fait, c'est souvent très express et que à ce moment-là, on a intérêt à être ferme sur les positions et les choix qu'on a fait par rapport à sa défense. Voilà, l'avocat normalement est censé aussi vérifier la régularité de la garde à vue. Par exemple, si les droits ont bien été notifiés, si le procureur de la République a été avisé du début de la garde à vue et si les conditions de l'interpellation sont légales. Du coup, voilà, sur le refus de la comparution immédiate, ce que je disais tout à l'heure, c'est que très souvent, en fait, les condamnations sont plus lourdes en comparution immédiate. Et donc choisir le report du procès, c'est possible et ça permet d'avoir plus de temps, plus de moyens pour préparer sa défense. Ça évite que le dossier soit uniquement à charge et que ça soit justement seulement en fait les versions des flics qui soient défendues. C'est possible du coup de trouver des témoins et de trouver des meilleures garanties de représentation. Je parlerai après de ce que c'est les garanties de représentation. Du coup, voilà, le risque en fait en refusant la comparution immédiate, c'est risquer la détention provisoire. Souvent, en fait, c'est là-dessus qu'appuient les avocats, les flics, le procureur pour nous déconseiller de la refuser, c'est qu'on va aller en détention provisoire. L'important, c'est donc de pas céder à ces pressions-là et de prendre une décision en fonction de l'affaire, des paramètres de l'affaire et de s'assurer les garanties de représentation. si en fait on est à l'extérieur et qu'on a une personne proche qui est en gave et qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer, si elle va passer en comparution immédiate ou pas, le mieux c'est de réunir les pièces nécessaires en vue d'un éventuel procès en comparution immédiate, de se renseigner au greffe pour voir les dates et heures des comparutions immédiates, d'essayer de trouver la liste des avocats d'office le jour de l'audience pour pouvoir transmettre les pièces au cas où ils passent en comparution immédiate. Si le garde à vue n'a pas désigné d'avocat, il est possible de se pointer à l'audience avec un avocat. Même si l'avocat n'a pas été désigné par le prévenu, il peut l'être au dernier moment. Du coup, ça, c'est une information importante. Faut pas, surtout pas hésiter à s'organiser pour assister aux audiences. Rassemblement de soutien, faire tourner l'info, enfin, tout plein de choses sont possibles, dans le respect, évidemment, de ce que la personne a décidé. Si elle veut pas de pub, elle veut pas de pub, mais voilà, enfin, que d'organiser, en fait, le soutien à l'extérieur pour la suite. Alors, je parlais des garanties de représentation tout à l'heure. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet en fait de pouvoir possiblement éviter la détention provisoire. C'est en gros pour montrer en fait qu'on est bien inséré dans la société et qu'on ne va pas se carapater en sortant de garde à vue et pas se présenter au procès. C'est un peu ça le truc. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est inséré ? Ben, ça veut dire si on a un travail, si on est étudiant, tout plein de choses comme ça. Et du coup, ça peut être tout un tas de trucs, quoi. Contrat de travail, convention de stage, fiche de paie, justificatif de domicile, certificat de l'employeur. Tout plein de choses qui permet de dire, en fait, j'habite ici, je ne vais pas partir, quoi. Donc ça sert à éviter la détention provisoire, mais ça permet aussi d'alléger une peine ou certaines mesures d'un contrôle judiciaire, si au final on ne passe pas en comparution immédiate. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus ? La comparution immédiate, en fait, c'est quelque chose qui est très fréquent, en fait, qui est très fréquemment proposé, en fait, par le procureur, parce que ça permet d'aller vite. La durée moyenne d'une comparution immédiate, c'est 31 minutes. Du coup, c'est vraiment en mode express, quoi. Pour ce qui est des chiffres, par exemple, les chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2013, il y a eu 44 272 comparutions immédiates. Il y en a quasiment la moitié, en fait, des personnes qui sont passées par ces comparutions immédiates qui ont été condamnées à du ferme. Et ça représente 45% des entrées en prison en 2013. Du coup, voilà, ça va rappeler qu'en fait, la comparution immédiate, ça peut être vraiment. Enfin, il faut vraiment y réfléchir avant de l'accepter. Et souvent, c'est plus intéressant de la refuser pour pouvoir préparer le procès.
Et puis, la logique de la comparution immédiate, et c'est pour ça qu'ils ont quand même beaucoup facilité cette procédure, c'est que ça fait. Ça évite les frais. De procédure et tout ça, c'est une logique purement rentable, c'est-à-dire la justice à moindre coût et du coup l'incarcération à toute pelle derrière, et que du coup c'est pas, enfin il faut avoir bien conscience que tout est torché clairement, mais parce que derrière ça fait des économies pour finalement un intérêt très moyen pour la personne, parce que même le risque. Même, ça dépend évidemment le délit, ça dépend la personne qui est en face, le casier judiciaire, l'origine, on va dire, socioculturelle de la personne et tout ça. Mais le risque de se retrouver incarcéré en attendant une audience et tout ça, elle est quand même relativement, relativement basse. Après, ça dépend évidemment qui on est et pourquoi on s'est retrouvé arrêté. Mais c'est, comme tu disais, par rapport à tous les facteurs à prendre en compte avant d'accepter ou refuser une comparution immédiate, il faut en avoir conscience que, enfin, c'est un chantage, la question de tirer en prison jusqu'à l'audience, mais que c'est pas systématique. Il y a la préventive, surtout si derrière les peines de prison tombent plus facilement que sur une audience entre guillemets traditionnelle.
Ouais. Voilà. Et du coup, pour ce petit topo, je me suis basée sur plusieurs choses. Du coup, le bouquin dont je parlais, Face à la police, face à la justice, qui est trouvable sur infokiosque.net, infokiosque au pluriel.net. Une brochure faite par la Legal Team de la ZAD qui date de février 2014, qui s'appelle La garde à vue, recettes théoriques et pratiques, qui est trouvable sur le site zad.nadir.org, et une autre brochure qui s'appelle « Rien à déclarer, un manuel de débrouille face à la police et à la justice », qui est trouvable sur le site parislutte.info, paris-lutte au pluriel.info.
Voilà, et sinon, au niveau plus local, il y a aussi une brochure qui s'appelle « Connaître ses droits face à la police » et qui est disponible dans plusieurs lieux de Grenoble, et notamment à la BAF. Du coup, voilà, c'est aussi possible de venir se la procurer.
Et c'est important, enfin, je trouve que c'est important d'avoir ces outils-là et de s'en servir et tout ça, parce que ça évite de subir certaines choses, ça évite d'avoir des abus, ça permet d'être mieux. On ne sait jamais comment ça se passe une fois qu'on y est, mais quand même, ça permet d'avoir quelques billes pour moins subir les choses et moins se faire prendre pour des cons et tout ça. Et c'est important, en fait, c'est con, ça paraît très légaliste dit comme ça, mais c'est important de connaître ses droits parce que c'est un meilleur moyen de se défendre et de moins subir quand même malgré
tout. Ça permet aussi de mettre un caillou dans l'engrenage, en fait, de ce qui est l'interpellation, la garde à vue, la comparution immédiate, la prison, en fait, et en fait très vite on se retrouve complètement dépassé par tout ça, et que en fait connaître ses droits, c'est permettre de mettre un holà et de pouvoir réfléchir à c'est quoi nos options, choisir un avocat, choisir une défense, et qui permettent de s'en prendre moins la gueule plus tard. Et notamment dans les brochures dont j'ai parlé, ça parle de la comparution immédiate, mais ça parle aussi de la garde à vue, ça parle de la prison, ça parle de plein de choses, en fait, par rapport à la justice et à la police. Et du coup, voilà, connaître ses droits pour s'en prendre moins la gueule, quoi.
C'est ça.
On va écouter un petit morceau de musique avant de passer à la suite. Donc, c'est un morceau d'un rappeur tourangais, comme on dit, de Tours, donc, qui s'appelle Nivek. Voilà, c'est du hip-hop conscient et c'est disponible en écoute libre sur le site B-Boy Conscient.
J'en suis là à rien faire, je vois plus passer les saisons. Le temps s'écoule, je passe du short claquette à la veste en cuir. Je vois que les portes se claquer et grandir une certaine rancœur. Mon cœur ne vagabonde plus, il dort dans ma cage thoracique. Mon heure n'est pas venue, mais c'est tout comme écoute ma zik. Alors quoi, je suis juste là pour poser ma brique. Sans voir l'édifice se faire, j'ai tourné le dos à la vie. De toute façon, exclu du match pour avoir buté l'arbitre. Aucun retour en arrière possible avec les potes à l'arrière. C'est pas que j'en bave, non, j'ai juste trop traîné en bas. Éteint mes espoirs, trop tôt avoir des gens barges. Rouler la nuit dans des voitures enfumées. À écouter du Booba, du Nas ou du Dre. Déjà 15 piges, le besoin d'adrénaline fait qu'on cherche tous les moyens pour faire courir la canine. Avec déjà le sentiment que le monde ne nous appartient pas. On s'écrit des souvenirs pour nos futurs incapables. Les têtes sous les parkas, au bras très peu de carba. Les rares fois où on sortait de la tête, c'était pour bouffer un kebab en ville. Avec trop peu de remparts pour pas partir en vrille. Si on se frappait entre potes, c'était pour sentir en vie. Je reprends les choses en main 10 piges plus tard. La nostalgie, ça prend de la place comme une guitare. Électriques sont mes versets, pas de Versace dedans. Dans ma version, quelques sachets verts pour passer le temps. Fini de compter les gens, les trains qui ne sont pas assez devant. J'ai préféré me couper les jambes pour pas me taper de crampes. Moi je suis de la trempe de ceux qui se massent les tempes. Attends que les rampes me montrent l'exemple pour tomber de la rampe. Triste sort, je peux pas y couper. Je remonte la pente avec un boulet accroché au pied. À force de croche-pied, coup de ça va te faire la prostate. Je suis prostré, ok, mais je traîne la patte jusqu'à la costa. J'irai pas jusqu'au gospel, je fais du blues avec des scratchs. Mon speech, c'est juste un spleen avec des basses. Pas un string qui dépasse d'un taille basse. Mon prisme est plus qu'opaque à cause de la crasse. Comme Solar, je fais de la brasse pendant qu'il crôle. Je casse la baraque avec des mots que je déplore. Je pose mes torts sur feuilles, sans tuer au tort. Boyau, à l'image de ces corbeaux, je traîne là où ça pue mort.
Voilà, du coup, on arrive déjà à la fin de cette émission. Et du coup, je voulais juste donner une dernière info avant de clôturer l'émission. Donc, je voulais parler de donner un peu des nouvelles des luttes contre les tôles et notamment contre la maxi-prison qui va être construite à Bruxelles. En Belgique, il y a donc 13 nouvelles prisons qui vont être construites là dans les années à venir, dont une, donc qui est une maxi-prison au nord de Bruxelles. Et du coup, cette maxi-prison-là, le but avoué, c'est d'empêcher les rébellions et que du coup, les gens qui font des rébellions dans les autres prisons, ils sont envoyés dans celle-là, histoire qu'on s'en débarrasse et qu'on soit tranquille.
C'est une sorte d'équivalent de Condé-sur-Sarthe, en fait.
Ouais, voilà, un truc comme ça. Et où, du coup, donc, voilà, le but, c'est de réprimer les personnes qui sont déjà en prison et faire peur aux personnes qui sont à l'extérieur, en mode, voilà, si vous êtes pas sage, vous allez finir, quoi. Et du coup, évidemment, il y a des gens qui luttent contre ces constructions-là. Voilà, donc là, dans les derniers mois, il y a eu des projections d'un court-métrage qui s'appelle Maxi Prison versus Maxi Rébellion, qu'on avait relayé l'année dernière, qui ont été réalisés dans les quartiers de Saint-Gilles, Anderlecht et Molenbeek. Il y a eu des distributions de tracts, des affiches, des slogans qui ont été tagués sur des murs. Il y a eu une espèce de réunion d'information, vous savez, comme ils aiment bien faire, là, les autorités, pour essayer de convaincre les habitants du quartier où la prison va être construite que vraiment c'est super, ça va leur apporter plein de bonnes choses. Et évidemment, donc, cette séance a été perturbée par des opposants. Et il y a également, donc c'est toujours pareil, la construction d'une prison, on dit toujours c'est l'État, c'est la justice, nanana. Il y a aussi plein d'entreprises privées qui se font plein de thunes parce que ça ne les dérange pas du tout de participer à ce business de l'enfermement. Et notamment, il y a des bureaux d'architectes, donc Bureau 2 et Archi plus 1, donc rien que les noms déjà ça fait envie, qui ont reçu des petites visites de personnes qui apparemment auraient souillé les bureaux avec des excréments. Et oui, forcément quand on construit des prisons, et ben des fois ça pue. Et donc dans les autres entreprises, donc il y a BAM, Valence, Denis, les banques K, B, C, Belfius et Fortis BNP Paribas qui se retrouvent aussi accusés par des campagnes d'autocollants et d'affiches, etc. Et voilà. Et du coup, si vous voulez avoir plus d'infos sur cette lutte, vous pouvez consulter le site lacaval.be et du coup qui recense un peu toutes les actions qui se passent contre la construction de prisons en Belgique. Voilà pour cette émission.
Donc voilà, cette émission prend fin. La prochaine émission sera normalement, si je dis pas de bêtises, le 21 mai. D'ici là, si vous voulez réécouter attentivement cette émission, une des anciennes émissions, on vous rappelle l'adresse les murons des oreilles, tout attaché, .noblogs.org, noblogs.org. Et puis pour nous écrire, notamment les murs ont des oreilles à Radio Kaleidoscope, BP 422 38018 Grenoble.
Et une dernière chose, du coup, là vous allez écouter un jingle du son contre la prison. C'est un autre jingle qui sera diffusé sur toutes les radios qui retransmettent le concert. Et je voulais rajouter à cette occasion que la liste des radios que l'on a fait tout à l'heure, il y en a encore plusieurs qui n'ont pas répondu à l'appel, mais qui devraient se confirmer d'ici peu. Du coup, voilà, enfin, c'est possible qu'il y ait plus de prisons qui soient couvertes par le concert. Voilà. Bonne soirée.
Salut.
Salut.
Le 9 mai, c'est du son contre la prison à Ursa Minor, à Saint-Étienne.
Le 9 mai, c'est un concert de rap avec Tornade.
Mélange de flow, mélange de flow et de rimes conscientes, tout le contraire de ces zics commerciales.
Dialectique musique. Et Billy Breloque.
Et c'est quand le présent, et c'est quand qu'on rentre dedans, et c'est quand qu'on range les dents.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison. Du son pour les prisonniers et les prisonnières.
Du son pour briser l'isolement.
Des échos à des luttes qui se passent derrière les barreaux.
Des ondes qui traversent les murs, ouvrent des brèches et déjouent la censure.
Le 9 mai, c'est du bon son de 21h à minuit.
En direct sur ta radio locale et sur plein d'autres radios en France et en Belgique.
Alors on se retrouve sur les ondes le vendredi 9 mai.